Vous souvenez-vous qu'au début de notre étude sur le livre de Jonas, nous avons vu, et je me permets de le répéter, que le but du livre était triple. Il y avait un but moral, un but symbolique et un but prophétique. Ce soir, nous reprenons le récit là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire au moment où Jonas se couche et s'endort profondément. Nous poursuivons au verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu là, dormeur ?» ou, selon d'autres versions, « Pourquoi dors-tu » « Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Nous nous limiterons ce soir à ceci. Le pilote lui dit « Pourquoi dors-tu » ou « Que fais-tu là, dormeur ? Lève-toi, invoque ton Dieu. » La parole du pilote vous rappelle-t-elle quelque chose, justement, du début ? « Lève-toi. » Ce mot, nous l'avons déjà rencontré au début du verset 2, où l'Éternel s'adresse à Jonas et lui dit « Lève-toi ». C'est exactement la même parole qu'il a entendue quelques jours plus tôt, et cette parole « Lève-toi » lui est rapportée avec exactitude, mais cette fois-ci par la bouche d'un païen. Dieu doit se servir d'un pilote inconverti comme d'une nouvelle ânesse de Balaam pour arrêter la démence de son prophète. Quelle humiliation pour un croyant, dont le corps est devenu le temple du Saint-Esprit, de recevoir l'exemple et l'exhortation de ceux à qui il devait donner et l'exemple et l'exhortation. Quelle humiliation de recevoir la parole de Dieu de la part de quelqu'un qui n'y croit pas encore. Jonas, prophète de l'Éternel, honoré de la plus grande mission qui ait jamais été confiée à un homme, faire trembler le plus grand potentat de l'époque. Jonas, lui l'ambassadeur de Yahvé, ambassadeur du Très-Haut, il en est réduit à recevoir l'ironique, l'amère, mais la juste censure d'un pilote païen. Jonas a besoin d'être piloté dans la vérité par un homme qui n'en connaît pas encore le chemin. Et cela nous montre à quel point la désobéissance vous abaisse un homme. Il en est réduit, je le répète, à entendre la vérité de la part d'un homme qui ne la connaît pas. « Lève-toi, Jonas !» Non seulement il lui dit « Lève-toi », mais il lui pose une question. « Que fais-tu là, dormeur ?» Et Dieu s'adresse ce soir à quelqu'un qui dort, spirituellement s'entend. « Que fais-tu là, dormeur ?» La voix du pilote est incisive, pleine de reproches. « Que fais-tu là, dormeur ?» Voyez-vous, chers amis, je crois que la Bible a ses élégances, parce que les paroles de Dieu, les choses qu'elle nous dit, elle les dit bien. Mais je crois que derrière cette élégance se cachent d'autres mots. Nous avons affaire ici à un matelot, un habitué des bistrots des ports. L'argot est son langage habituel, et je l'entends dire « Qu'est-ce que tu fais là, flemmard, roupilleur, feignant, qu'est-ce que tu fais là ?» Et ces paroles font l'effet d'une brûlure dans la chair et la conscience de Jonas. Sans doute que dans ses songes, il abordait peut-être aux aimables rivages de la lointaine Tarsis. D'agréables images se pressaient dans ses rêves et agitaient ses sens, quand tout à coup ce rude marin vient le secouer et le réveiller brutalement. Qu'on se figure sa terreur d'être réveillé par la voix d'un pilote lui-même terrorisé. Il entend le mugissement de la tempête et une voix qui lui hurle à l'oreille « Lève-toi, c'est la voix de Dieu !» Dans sa vie, Jonas n'a jamais connu pareille terreur. Je sais par expérience ce qu'il a dû ressentir. généralement parlant, et je souligne généralement, je ne suis pas très accessible à la peur. Toutefois, j'ai connu des moments terribles pendant la guerre. Je revois encore 4 avions de la Luftwaffe qui, à assez haute altitude, larguent tout à coup des bombes qui tombent en sifflant et qui, à 30 mètres de moi, ont tué 13 personnes. J'ai vécu d'autres bombardements. Je me suis couché dans les fossés. J'ai vu des cadavres grillés. Je n'oublierai pas non plus ce jour où les Alliés avaient la maîtrise du ciel et où ce chasseur volant en rase-motte a mitraillé une camionnette qui était à quelque à peine 100 mètres devant nous et nous étions dans la ligne de tir, aplatis par terre, les balles d'un calibre de 20 passaient en sifflant au-dessus de nous dans un bruit terrifiant. Vraiment, je n'en menais pas large. Mais ce n'est pas là que j'ai eu le plus peur. L'année dernière, ma femme et moi étions à la Martinique, invités pour 3 semaines de prédication de l'Évangile. Nous logions dans un appartement qui dominait la mer des Caraïbes. Figurez-vous que dans ce beau cadre antillé, il y avait un homme bizarre, un doux détraqué, qui la nuit se manifestait par un comportement étrange, avec une agilité incroyable digne de Spider-Man. Il s'accrochait aux moindres aspérités, grimpait en haut des murs et de balcon en balcon. Il passait sur les terrasses. Il ne faisait rien. Il regardait les gens dormir, avec peut-être une préférence pour la gent féminine. Cette nuit-là, moi je dormais profondément. Je devais être dans mon sommeil dit paradoxal, au milieu de la nuit. Ma femme se réveille un instant, regarde vers la fenêtre et elle me voit, ou croit me voir sur le balcon, en train de regarder dans la chambre. Elle se redresse et dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là sur le balcon à cette heure-ci ? » Puis elle étend la main droite, et elle sent que j'étais à côté d'elle. Elle me réveille alors brusquement en criant « Il y a quelqu'un sur le balcon !» Être brusquement tiré d'un sommeil profond par quelqu'un d'effrayé, eh bien, je vous assure qu'on ne contrôle plus rien. Le cœur s'affole et une peur voisine de la terreur vous envahit et vous paralyse. Pour Jonas, ça devait être ça, mais multiplié par 2, par 5 ou par 10. Jonas se réveille en sursaut, avec le bruit de la tempête dans les oreilles et la voix terrorisée du pilote qui lui crie « Hé, dormeur, que fais-tu là? Lève-toi » Le ciel poursuit Jonas. Le pilote le lui dit et sa conscience le lui crie. J'aimerais à présent faire une courte parenthèse. Jonas est pris dans la tempête à cause de sa désobéissance. Mais pour le chrétien qui marche fidèlement avec son Seigneur, il peut aussi, comme Job, comme l'apôtre Paul, connaître des tribulations, des moments très difficiles, sans que ce soit le courroux de Dieu. Le chrétien fidèle peut être en butte aux attaques, aux calomnies des méchants, et il peut en souffrir. Mais dans ces cas-là, ce sont plutôt les paternelle correction du Seigneur qui veut humilier son cœur et éprouver sa foi. Si tel est le cas, une chose le soutiendra au travers de toutes ces épreuves, c'est ce que la Bible appelle dans l'Épître aux Romains la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Vous verrez alors ce croyant sortir de son épreuve enrichi, purifié comme l'or qui est passé par le feu et mieux équipé pour servir son Seigneur. Mais il en va autrement du rebelle. Un chrétien peut prendre un mauvais chemin dans sa vie et y persévérer. Alors pour cet homme, la tempête qui sévit n'est pas seulement au dehors, elle est aussi au dedans. La tempête qui est à l'extérieur du bateau est en même temps dans son cœur. et si pour Jonas désobéissant, c'est un véritable jugement qu'il atteint, je ne soulignerai jamais assez que ce n'est quand même que le jugement d'un père, dont le but sera toujours de ramener à lui son enfant égaré. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est écrit que tout dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous, pour notre instruction, et le récit de Jonas ne fait pas exception. Il est écrit pour nous, pour que quelque part nous nous y reconnaissions. Si donc Dieu reprend l'un des siens dans son cœur et dans sa conscience, en le privant de sa paix, et qu'en même temps il le visite dans son corps, dans ses affections, dans ses circonstances, c'est encore avec amour qu'il le fait. Et s'il y a dans mon auditoire ce soir quelqu'un qui est l'objet des attentions rigoureuses de Dieu, quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qu'il ne perde pas courage, qu'il retourne à la parole de Dieu et qu'il court se jeter dans les bras du Seigneur. Un de nos beaux chants dit « Si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour. » Que cette personne laisse sa folie et Dieu le recevra. Mais de grâce que personne n'oblige Dieu à lui envoyer de tels messagers. Dans le psaume 32, il est dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part. » C'était le cas de Jonas. Dieu a dû intervenir en force dans sa vie, car à ce moment-là, il était comme un âne et comme un cheval sans intelligence. Mais que ce soit plutôt comme au verset 26 de ce même psaume, « Que tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Et au verset 8, il n'est plus question de mort ou de bride, tout est tendresse et douceur. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Après lui avoir dit « Lève-toi, pourquoi dors-tu ?», le pilote lui dit encore « Invoque ton Dieu ». Et cette parole, c'est celle qu'il faut crier à deux catégories de personnes. D'abord, à ceux qui sont perdus, bien sûr, mais aussi aux chrétiens qui s'est assoupi. Il faut crier « Invoque ton Dieu » à l'inconverti qui sommeille au bord de l'abîme dans lequel il prend l'épouvantable risque de tomber. Il faut lui dire « Réveille-toi, invoque ton Dieu, déjà les flammes t'entourent, le ver et le remords attendent l'un pour s'emparer de ton corps et l'autre de ton âme pour les ronger éternellement. » Les vieux prophètes, les premiers évangélistes, les apôtres ont eu un langage d'acier, une parole de silex envers leurs auditeurs, et c'est cette parole qui a amené les gens au sérieux de l'éternité, à la repentance et au salut de leur âme. Quelqu'un m'a un jour fait remarquer que dans ce qui est rapporté de la prédication des apôtres dans le livre des Actes des apôtres, jamais l'amour n'est mentionné. Dans un style souvent lapidaire, ils ont prêché la repentance, la conversion, le jugement, la perdition, la personne, l'œuvre et la résurrection, et le retour de Jésus-Christ, et la foi qui sauve en ses valeurs fondamentales. En fait, ils vivaient l'amour plus qu'ils n'en parlaient. Mais c'est aussi la parole d'Éphésiens 5, verset 14 qu'il faut dire au chrétien qui s'est assoupi. « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ brillera sur toi. » C'est le message solennel qu'il faut répéter à son frère qui s'est endormi spirituellement, et il faut le dire sans relâche, avec vigilance et avec amour. Dans les pays de montagne, quand un randonneur accablé par la fatigue s'arrête, se couche dans la neige et qu'il s'endort, le sort qui l'attend, c'est la mort. ses compagnons usent de supplications pour le réveiller et le remettre sur pied. Et si la supplication ne suffit pas, ils passeront au coup pour le sortir de sa torpeur mortelle. Ce qu'on fait pour le corps, qui de toute façon va périr, ne le ferait-on pas pour notre âme qui a une valeur éternelle ? Dans ce difficile ministère qui consiste à secouer les consciences et à crier « Allez, debout, lève-toi !» il faut compter avec la perfidie du séducteur qui veut jeter un démenti sur la parole de Dieu, comme par exemple « On a bien assez de temps pour se réveiller. » Nous avons assez de temps pour arranger nos lampes, ont dit les vierges folles de la célèbre parabole. Et c'est là un des grands artifices de l'ennemi. Nous avons le temps de nous réveiller. J'ai lu qu'un homme avait un jour fait un rêve. Était-ce une allégorie ou une réalité, je ne sais pas. Toujours est-il que dans son rêve, il aurait assisté à une conférence des démons qui s'étaient réunis pour élaborer le meilleur plan pour perdre les hommes. Plusieurs démons se sont présentés. L'un d'eux proposa d'aller dire aux hommes qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Sa proposition n'a pas été retenue, forcément, puisque Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, et que pas plus que Jonas, on ne peut finalement pas fuir Dieu qui vous rattrape toujours au tournant. Voltaire, l'athée qui était hanté par l'idée de Dieu, a écrit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Un autre a proposé de dire que Jésus-Christ n'était pas le sauveur. Un autre a fait une autre proposition, un autre encore, mais aucune n'a été retenue, aucune n'a retenu l'attention de l'agent démoniaque. Jusqu'à ce que l'un se présente en disant « Eh bien moi, pour perdre les hommes, j'irai leur dire qu'il y a un Dieu. J'irai leur dire qu'il y a un enfer. J'irai leur dire que Jésus-Christ est mort sur une croix pour sauver des pécheurs. Et j'irai dire aux hommes qu'en se repentant et en croyant en lui, ils peuvent être sauvés. » Il y a eu dans les rangs démoniaques un malaise évident, jusqu'à ce que ce démon ait ajouté « Mais j'irai leur dire que pour se convertir, demain fera tout aussi bien l'affaire qu'aujourd'hui. » Je répète, « Demain fera tout aussi bien l'affaire qu'aujourd'hui. » Et c'est sa proposition qui a été retenue, car demain est, paraît-il, le jour du diable. Et dans un sens, c'est vrai. Quand on est demain, demain c'est toujours le jour d'après, et ainsi de suite, c'est-à-dire jamais. C'est pourquoi la Bible dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. » Aujourd'hui, maintenant est la parole et le moment du salut. Oui, il faut se préparer à la rencontre de Dieu, mais il faut le faire aujourd'hui. Je ne suis pas prêt d'oublier cet épisode qui n'est pas une allégorie, ni un rêve, puisque je l'ai vécu. J'officiais lors d'un ensevelissement en Belgique, au cimetière, alors qu'on descendait le cercueil dans la fosse, j'ai osé dire à la foule « Il est possible qu'au moment où je vous parle, le menuisier du village est en train de raboter les planches qui vont servir au cercueil de quelqu'un qui est parmi nous. » Il y avait là un homme d'environ 30 ans qui m'a regardé avec un sourire narquois sur les lèvres, ayant l'air de dire « Il faut quand même pas pousser. » 2 heures après, c'était son tour. Au moment où je disais ces choses, le menuisier rabotait les planches de son cercueil. Oui, il faut le dire que la vie n'est pas sûre. Dans les jours sérieux que nous vivons, jours prophétiques où l'assoupissement envahit l'Église, il convient de s'adresser mutuellement cette parole de vérité. Le Seigneur est à la porte, Levez-vous. Malheur aux vierges folles. Malheur à ceux qui se sont endormis. Le Seigneur revient. Plus que jamais devant l'imminence de cette échéance de laquelle on nous a tellement entretenus et que les événements confirment, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de veiller, c'est l'heure de résister au sommeil. Ce n'est pas l'heure des grands intérêts matériels et politiques, c'est l'heure de regarder au cadran des siècles. Et que dit-il? Je vous cite des paroles de l'Écriture. L'heure s'est avancée, le salut est plus proche de vous que le jour où vous avez cru. Voici, je viens bientôt, ou encore, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, il faut regarder en haut. Mais comment allons-nous regarder en haut si l'Église s'est assoupie? L'Église a perdu son espérance. On ne nous parle plus guère du ciel aujourd'hui. On m'a fait remarquer que dans un nouveau recueil de cantiques, il n'y avait pas deux chants qui parlaient du ciel. Et je l'ai vérifié. J'ai écouté récemment une cassette audio de la colonelle Malan, auteur des Échos du ciel. À près de 90 ans, elle jouait au piano et d'une voix cassée par l'âge, elle chantait « Parlez-moi, oh, parlez-moi du ciel ». Aujourd'hui, cette espérance, ces regards tournés vers le haut n'apparaissent plus guère dans nos nouveaux recueils. Nous savons tous ces choses, et néanmoins nous sommeillons comme Jonas, à fond de cale. Nous ne disons plus aux gens de se réveiller. Alors, si nous sommes incapables de le faire, qu'une prière monte de nos cœurs vers notre divin pilote et disons-lui, Seigneur, toi, Seigneur Jésus, réveille, réveille tous ceux qui sont à ton bord. Dis-leur toi-même qu'ils doivent se lever. Dis-le avec des accents qui seuls t'appartiennent. Si tes prédicateurs ne savent plus le dire ou ne savent plus bien le dire, eh bien, toi, Seigneur, dis-le-nous.